Il est 7h.
Ça sonne à la porte. Je veux ouvrir. J'ai un coup de feu qui part. Il n'a pas réussi à tirer un deuxième coup.
Bertrand, DRH, réalise petit à petit qu'il est sans doute un miraculé. Un homme a lui aussi tenté de l'abattre dans les environs de Mulhouse il y a quelques jours. Les enquêteurs cherchent à savoir s'il s'agit de cet ingénieur arrêté à Valence hier après 2 assassinats. Le tour de vis de l'Union européenne après la polémique sur les vaccins qui tardent à être livrés. Les 27 veulent contrôler les exportations dès aujourd'hui.
C'est difficile. Je viens d'une famille qui, en temps normal, a les moyens. Et la crise a fait que je ne les ai plus, ces moyens-là. J'ai pas le choix. Si je prends pas ces 2 paniers par semaine, je ne mange pas.
Vous l'entendez, le désarroi des étudiants face à la crise sanitaire, alors que l'hypothèse d'un reconfinement se profile, ils sont de plus en plus nombreux à faire la queue devant les banques alimentaires. Et puis le nouvel album du chanteur Benabar, Indocile Heureux, 12 titres pour cet amoureux de la poésie et de l'amour, on le découvrira avec Angèle Châtelier.
Et juste après ce journal, les chiffres de la croissance dévoilés par l'INSEE. Oui, comme ça, ça a l'air moins sympa que l'album de Benabar. La pire récession de l'histoire, nous expliquera Nicolas Barret dans son éclairage éco. Vincent Hervouette nous raconte les tribulations des experts de l'OMS en Chine dans le regard international. L'édito sport de Virginie Fulpin, avant de retrouver Stéphane Bern pour notre rendez-vous d'histoire. Très bon réveil à toutes et à tous. Vous écoutez Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et pour commencer, les secouristes n'en croyaient pas leurs yeux quand ils ont vu le bras de ce père de famille de 50 ans bouger après plus de 2h30 enseveli sous une coulée de neige.
Il faut bien comprendre, il y a beaucoup de chutes de neige, de gros risques d'avalanche et cet homme a été pris au piège alors qu'il marchait en raquette, en famille, à Val d'Isère, en Savoie. C'est un sauvetage miraculeux qui donne le sourire au lieutenant Alexandre Gréter du peloton de gendarmerie de Haute-Montagne.
Quand les secouristes sur place ont pu dégager le coude et qu'ils ont vu le coude de la victime bouger, tout de suite ça crée un blanc quoi. Personne ne croit ce qu'il voit parce qu'on part du principe qu'au bout d'un quart d'heure, les chances de rester en vie s'amenuisent de minute en minute. Or, il a eu une excellente idée qui était celle de se coller contre un arbre, ce qui lui a permis de ne pas être balayé par l'avalanche. Il a eu une chance extraordinaire de pouvoir rester calme et c'est grâce au système qui s'appelle le Wolfhound qui permet de retrouver des téléphones portables qu'un gendarme a pu localiser la victime et c'est la première fois où on a un résultat positif sur une avalanche. C'est une vraie victoire, quoi. On a eu des vivants à plus d'une heure et demie, 1h45 en tous les cas pour ma carrière. 2h30, c'est assez exceptionnel quand même.
Le lieutenant Alexandre Gréter du peloton de gendarmerie de Haute-Montagne avec Caroline Baudry et puis on vous le disait justement, attention au risque d'avalanche avec le redoux annoncé. Il est au plus fort dans la région, risque de 5 sur 5 aujourd'hui en Savoie. La montagne est extrêmement dangereuse en ce moment, alerte le lieutenant.
C'est le témoignage d'un miraculé que vous allez entendre. Décidément, hein, 2 miracles pour démarrer ce journal de 7h. Écoutez, Bertrand, DRH aux environs de Mulhouse, a lui aussi failli mourir.
Oui, mardi soir, un homme s'est présenté chez lui, arme à la main, et lui a tiré dessus. Il venait auparavant de tuer une DRH. C'était quelques heures plus tôt en Alsace. Et aujourd'hui, les enquêteurs se demandent s'il ne s'agit pas du même homme qui a abattu hier une conseillère Pôle emploi et une autre DRH. Écoutez le témoignage de Bertrand qui réalise aujourd'hui qu'il aurait pu mourir.
Je suis chez moi en train de travailler, ça sonne à la porte. Je veux ouvrir, quelqu'un masqué comme ça doit se faire avec le Covid tient un carton dans les mains. J'ai un coup de feu qui part, visiblement il y avait un pistolet, semblerait-il, sous le carton à pizza. Il n'a pas réussi à tirer un deuxième coup, il part en courant. Je le suis, je le rattrape, je le plaque au sol, je voulais simplement le retenir et le maîtriser. Se déclenche une bagarre, il arrive à m'échapper des mains. J'ai besoin de quelques secondes pour reprendre mes esprits, je continue à y courir après. Voilà, il s'était enfermé dans sa voiture. En plus, j'étais chez moi en chaussettes, j'ai pas réussi à le retenir et voilà quoi.
Vous êtes un miraculé.
Je commence à me le dire parce que je commence vraiment à me rendre compte de ce qui s'est passé.
Alors une autre DRH, une ancienne collègue à vous, si je ne me trompe pas, a été tuée le même soir, pas loin de Colmar.
Oui, tout à fait. Oui, on était encore, on était d'anciens collègues. Et oui, on était encore en relation.
Et puis, il y a donc encore une autre DRH tuée, elle aussi, ce jeudi en Ardèche.
Évidemment, on est tenté de faire le lien. Je pense qu'il faut attendre que l'enquête puisse avancer plus loin.
Un témoignage de Bertrand, ce miraculé recueilli par Arthur Mbaché pour Europe 1. Et puis, on fera un point complet sur cette enquête. Ce sera dans le journal de 7h30. À noter aussi aujourd'hui, toutes les agences Pôle emploi garderont le rideau tiré en hommage justement à la conseillère tuée hier dans l'agence de Valence. 10 jeunes sont toujours en garde à vue dans le cadre de l'enquête sur le passage à tabac d'un collégien de 15 ans. Le jeune Youri, mi-janvier sur la dalle de Beaugrenelle dans le 15e arrondissement à Paris. Ce dernier est toujours hospitalisé dans un état grave. Et puis les chiffres de la délinquance, ils ont chuté en 2020, sauf les violences intrafamiliales et sexuelles selon le premier bilan annuel du ministère de l'Intérieur. Le ministère explique l'augmentation sensible des violences sexuelles, notamment par la hausse du nombre de plaintes dans un contexte de libération de la parole des victimes.
7h05 sur Europe 1. Alors que la France est suspendue à un possible reconfinement, la campagne de vaccination se poursuit au ralenti.
2,5 millions de personnes vaccinées d'ici la fin février au lieu des 4 initialement prévus. Le gouvernement a effectivement revu ses prévisions à la baisse. En cause, les retards de livraison de la part des laboratoires et en particulier celui d'AstraZeneca. Les Européens soupçonnent d'ailleurs cette multinationale de la pharmacie d'avoir expédié au Royaume-Uni les vaccins produits sur le continent. Les 27 ont donc décidé de hausser le ton et ils veulent contrôler les exportations, Isabelle Horry.
Oui, c'est une mesure d'urgence qui, sauf surprise, va entrer en vigueur dès aujourd'hui. Les laboratoires vont devoir notifier toutes les livraisons de vaccins qu'ils ont prévues hors de l'Union européenne. Ils devront obtenir le feu vert du pays où se trouve leur usine et les exportations pourront être bloquées si, en parallèle, l'entreprise ne respecte pas ses engagements de livraison aux Européens. C'est un premier pas. Certains dirigeants vont même déjà plus loin en évoquant des mesures de réquisition des éventuels stocks de vaccins. C'est vraiment le signe de l'impatience qui grandit face aux labos. Après Pfizer, AstraZeneca est à son tour dans le collimateur. La multinationale anglo-suédoise a annoncé il y a une semaine qu'elle avait des problèmes de production de son vaccin en Europe. Elle prépare un nouveau calendrier de livraison. Mais pendant ce temps, le Royaume-Uni continue lui à être approvisionné sans délai. Donc les 27 s'étranglent. D'autant plus que les précieuses premières doses de vaccin AstraZeneca utilisées de l'autre côté de la Manche provenaient justement de Belgique et des Pays-Bas.
Les explications d'Isabelle Horry, la correspondante d'Europa à Bruxelles. Et puis le vaccin d'AstraZeneca justement fait aussi l'objet de questionnements sur son efficacité. Sur les plus de 65 ans, les autorités sanitaires allemandes l'ont déconseillé pour cette tranche de population. Et puis attention pour ceux qui voudraient éventuellement se rendre en Martinique et en Guadeloupe dans les prochaines semaines. Eh bien sachez qu'il faudra un motif impérieux pour s'y rendre à partir du 2 février. Annonce faite par le ministre des Outre-mer pour protéger les Antilles des variants du Covid-19.
Et nous reparlons des étudiants ce matin, étudiants qui figurent parmi les plus inquiets d'un éventuel reconfinement.
Oui, leur quotidien depuis le début de l'épidémie, eh bien c'est souvent la solitude face à l'enseignement à distance. C'est un sentiment d'enfermement dans des logements exigus, mais plus prosaïquement, c'est aussi souvent des frigos vides, faute de revenus avec les petits boulots qui ont chuté en masse. Conséquence, les distributions alimentaires n'ont jamais attiré autant de jeunes. Reportage hier soir dans la capitale avec Romain Oquet.
J'ai pas le choix. Si je prends pas ces deux paniers par semaine, je ne mange pas.
La file s'étire sur plusieurs centaines de mètres. 450 étudiants patientent sur le trottoir. Les visages sont fermés, regards gênés. Marie a perdu ses deux jobs étudiants.
C'est difficile. Dans mon entourage, j'en parle pas trop. Je viens d'une famille qui, en temps normal, a les moyens. Et la crise a fait que je ne les ai plus, ces moyens-là.
Salut, je peux prendre ta carte étudiante,
oui,
s'il te plaît ?
Pâte au lardon, poulet.
Sur les tables, des yaourts, des fruits, des produits d'hygiène, un colis de 6 kilos que Marius plonge dans son sac.
Vous allez tenir combien de temps avec tout ça ?
Bien 3-4 jours au moins. Sinon, je vais faire des petites poulets, tout ça. C'est bien aussi de cuisiner aussi. On essaie d'aller de l'avant et de voir le bon dans tout ça.
2 heures de distribution en continu.
Là, il n'y a plus rien, les tables sont quasiment vides. Il y a 2,5 tonnes de denrées qui sont parties en distribution.
Bonjour, comment ça va ?
Cette voix, c'est celle de la psychologue derrière son stand. Un sourire et Marion s'arrête un instant.
C'est pas juste remplir son sac avec de la nourriture. J'ai vraiment besoin d'avoir cette oreille qui est tendue. Je passe ma journée seule devant mes cours. Donc venir ici, c'est une vraie bouffée d'oxygène.
Si vous avez besoin, il y a des numéros de téléphone d'appel de psy.
Ces numéros, presque tous les notes avant de sortir. Au cas où on soit reconfiné, soupire l'un d'eux. Cette fois, j'ai peur de ne pas tenir.
Reportage de Romain Oquet pour Europe 1.
L'an dernier, ils ont jeté toute leur production. Les horticulteurs se demandent si 2021 va ressembler à 2020.
Et à l'heure de planter des semences pour cette année, ils s'interrogent sur la marche à suivre car ils ont gardé le souvenir douloureux de l'an dernier où ils ont dû jeter pour 60 millions d'euros de marchandises. Les fleuristes étaient fermés, souvenez-vous, considérés comme des commerces non essentiels. Alors à l'heure où l'épidémie reprend de la vigueur, les horticulteurs sont perplexes. Reportage de Charles Guyard.
Cueillir et jeter, cueillir, jeter. Donc ça, c'était les 15 premiers jours, donc super.
En mars dernier, voilà comment étaient rythmées les journées de travail dans les serres de Froget-Fleur à Saint-James-sur-Loire, au sud d'Angers. Guillaume, le patron, s'en souvient, amer.
Ça a été un vrai crève-cœur de détruire tout ce que l'on avait mis en place auparavant. On a perdu pour 800 000 euros de marchandises sur les 8 semaines de confinement.
Aujourd'hui, alors que la situation sanitaire demeure incertaine, les producteurs français s'interrogent. Faut-il semer, planter et même commencer à recruter de la main-d'œuvre en vue du printemps où ils réalisent la moitié de leur chiffre d'affaires en 3 mois. C'est toute la question, et même une question à 1,5 milliard d'euros, comme ce qui est investi chaque hiver pour justement préparer cette saison forte. Michael Mercier, président de la filière horticole en France.
Pour l'instant, il y a une grande prudence des producteurs, mais en même temps, on ne peut pas leur dire « ne mettez rien en production ». Nos activités ne peuvent pas s'arrêter. On a un produit qui est vivant, périssable, non transformable. Donc si les magasins sont fermés, on est obligé de les jeter. Il faut que l'activité continue d'une manière ou d'une autre. Donc on demande vraiment à être reconnu comme essentiel.
Une classification qui, en cas de nouveau confinement, permettrait de limiter la casse dans un secteur fort de 52 000 entreprises et 170 000 emplois en France. Saint-James-sur-Loire, Charles Guyard, Europe 1.
Chez Sanofi, cette fois, 364 emplois sont menacés en France. Ça s'inscrit dans le cadre d'une restructuration annoncée en juin dernier par le groupe pharmaceutique qui prévoit de supprimer jusqu'à 1 millier de postes en France sur 3 ans. Du sport, l'info de la nuit, c'est l'arrivée du vétéran du Vendée Globe au Sable d'Olonne. Jean Lecam a franchi la ligne d'arrivée aux alentours de 2h du matin après 81 jours de mer. À 61 ans, il est revenu vidé mais heureux de cette course épique après le sauvetage de Kevin Escoffier. Il a fini 4e et on rappelle quand même que le vainqueur de cette édition 2020, c'est toujours Yannick Bestaven. Enfin ce soir, les handballeurs français vont-ils nous surprendre? Ils tenteront en tout cas de décrocher une place en finale du Mondial face à la Suède. Ce sera à partir de 17h30.
C'est noté. Rendez-vous sport du week-end, ça, demi-finale de Mondial. On va passer à de la musique à présent avec Benabar qui est de retour. 9e album pour Benabar, Indocile Heureux.
Indocile Heureux, hein, pas imbécile heureux, hein, c'est
indocile,
difficile.
Indocile.
Ouais. Indocile, 2 ans après le début de la suite, l'album disque d'or aux 50 000 exemplaires vendus. Benabar est resté le même, amoureux de la poésie, amoureux de l'amour. 12 nouveaux titres dans lesquels il explore son besoin de romantisme sur des rythmes dansants et il s'est confié à Angèle Châtelier.
Il y avait une volonté globale de faire un album de variété, c'est-à-dire qu'avec des titres qui changent, un album pas joyeux parce que c'est il y a des chansons tristes, mais un album entraînant, divertissant.
Sont des hommes et des femmes qui prennent souvent des claques.
Et vous avez des titres Benabar qui s'appellent Tous les divorcés, Les belles histoires, Au nom du temps perdu. On a l'impression que dans cet album, vous vous demandez un peu où est passé le romantisme.
J'en ai fait une chanson justement où je parle du romantisme, qui parle un peu de ça, c'est-à-dire que s'autoriser aussi de, un peu de romantisme, un peu de grands sentiments, quitte à passer un peu pour un imbécile des fois.
Où sont passés les trépassés, les Roméo, les Juliette.
J'ai ressenti moi-même que je m'interdisais un peu ce genre de truc justement pour pas passer pour un rigolo ou pour un imbécile. Et je m'aperçois que je reviens en fait vachement là-dessus, avoir envie de faire des grandes déclarations, mais aussi des déclarations à des amis. C'est peut-être la période qui donne ça. J'ai envie de dire les choses de façon un peu plus grandiloquente.
Tous les divorcés se sont aimés tendrement. Un week-end sur deux, ils le répètent à leurs enfants. Quel est le plus important? Le premier amour ou le plus récent?
Wow.
Bonne question.
C'est super dur comme question, pardonnez-moi. Quel est le plus important? Je suis surpris par cette question. Vous avez 4 heures les amis.
Allez, bon week-end.
Non, je réponds pas. Merci beaucoup Chloé Triomphe. C'était le journal de 7h, vous êtes sur Europe 1.
Europe 1, Mathieu Béliard.
On passe de la musique à la bande dessinée avec le palmarès du Festival de la BD d'Angoulême qui sera remis ce soir pour le vrai festival. On attendra le printemps, on espère le printemps. À 7h40, je reçois Anne Goscinny, fille de René Goscinny, bien sûr, qui aujourd'hui veille sur les Astérix, les Lucky Luke, les Is No Good ou encore le Petit Nicolas. Elle remet ce soir le prix Goncourt du meilleur scénario. Anne Goscinny, invitée du Tête à Tête Europe Matin. Tout de suite, l'éclairage éco, Nicolas Barré.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
7h17 sur Europe 1, l'éclairage éco avec Nicolas Barré. Bonjour Nicolas.
Bonjour Mathieu.
L'INSEE l'annonce ce matin, 7h30. La France aura connu l'an dernier la pire récession depuis que les statistiques du PIB existent.
Un énorme décrochage, oui. L'économie aura plongé l'an dernier d'environ 9%. Lors de la grande crise financière de 2008, c'est bon d'avoir cette échelle en tête, notre économie n'avait chuté que de 2,9%. C'est donc trois fois pire cette fois-ci. Et si on se compare aux autres, bien sachez que le choc a été beaucoup plus fort chez nous qu'en Allemagne, par exemple. Moins 5% seulement, si je puis dire, outre-Rhin. Le coup d'arrêt dû au confinement a été plus brutal en France que dans les autres pays européens, exception faite de l'Italie, de l'Espagne et de la Grèce.
Et donc, concrètement, ce sont des dizaines de milliards d'euros de richesses qui se sont évaporées.
Oui, là encore, ayons quelques ordres de grandeur en tête. Quand notre économie chute dans ses proportions, cela veut dire que nous produisons 200 milliards d'euros de richesses en moins. Alors, 200 milliards, c'est par exemple 5 fois le budget de la défense, c'est un peu plus que le total des recettes de TVA d'une année, c'est plus de 2 ans d'impôt sur le revenu. Et si on ramène cette perte de richesse par habitant, et bien faites le calcul, ça signifie que nous nous sommes appauvris collectivement de 3 250 euros par personne. Alors pourtant, vous allez me dire, le pouvoir d'achat moyen des Français n'a reculé que de 0,3%. Pourquoi ? Bien parce que l'État a amorti le choc, grâce notamment au chômage partiel.
Et quel va être le scénario cette année ?
Alors, les pertes de richesse dont je parlais, nous ne les combleront pas en 2021. L'économie va rebondir, car nous partons de très bas, mais il faudra attendre 2022 au moins pour que la France retrouve le niveau de richesse qui était le sien en 2019. 3 ans de perdu, donc. Les économies européennes vont encore tourner cette année 10-15% en dessous de leur capacité normale. Pourquoi ? D'abord parce que nous allons mettre des mois avant de vacciner, disons, les 2/3 de la population. Ensuite, parce que les mesures de soutien européennes tardent à être débloquées. Puis enfin, parce que les entreprises ont accumulé beaucoup de dettes et que leur santé financière est donc fragilisée. Tout ça crée beaucoup d'incertitudes sur l'ampleur du rebond économique que l'on peut espérer cette année. Bruno Le Maire a dit qu'il fallait oublier le scénario d'une croissance forte de 6%. L'Allemagne anticipe 3%. Nous serons probablement quelque part entre ces deux chiffres, mais vous le voyez bien, ça ne permettrait pas, hélas, de regagner tout le terrain perdu l'an dernier.
Merci Nicolas Barré, qui a perdu 3 250 euros cette année. Moi aussi, vous aussi qui nous écoutez, Julien qui réalise l'émission, pareil, 3 250 euros, compensé par l'État pour beaucoup, évidemment. Merci Nicolas. 7h19 sur Europe 1, ne manquez pas notre dossier à 8h, le plan de relance. Où est-ce qu'on en est ? C'est le dossier de la rédaction ce matin. Vincent Hervouet est avec nous, bonjour Vincent.
Bonjour Mathieu.
Le regard international de Vincent Hervouet, les enquêteurs de l'Organisation Mondiale de la Santé sont enfin à pied d'œuvre à Wuhan.
Oui, alors le week-end c'est compliqué de s'évader avec les frontières fermées, le ski interdit, mais on peut se consoler avec les tribulations des chercheurs en Chine. Ils sont là-bas pour trouver les origines du Covid-19 et que plus personne jamais ne parle de virus chinois. Évidemment, c'est étonnant d'envoyer des enquêteurs un an après sur la scène du crime. C'est curieux de les faire lanterner 2 semaines à la porte sous d'obscures raisons de visa. Et c'est surréaliste de les avoir enfermés à l'hôtel pendant 15 jours.
Il fallait bien respecter la quarantaine.
Oui, mais en 2 semaines, chacun bouclé dans sa chambre, les plateaux repas devant la porte, les drones qui s'attardent à la fenêtre pour vérifier que tout se passe bien, ce n'était pas la lune de miel au Ritz. Après cette garde à vue, les étrangers sont à bonne température. Hier, ils ont fait 3 pas à l'air libre et on les a vus monter dans le car, on les a vus de loin, interdit de s'approcher. Ils ont fait bonjour derrière la vitre, entourés de guides en tenue de protection NBC. Le chauffeur aussi était en scaphandre blanc. À croire que ces étrangers sont radioactifs. Même le bus était blanc. Comme une ambulance, on aurait dit un voyage organisé du comité d'entreprise à Tchernobyl.
NBC, c'est nucléaire, bactériologique et chimique. Hein, je parle sous votre contrôle, Vincent. Depuis, ils ont disparu.
Le monde a les yeux rivés sur eux, mais on ne sait même pas où ils sont passés. Leur programme est inconnu, la durée du séjour aussi. La seule certitude, c'est qu'ils ne risquent pas de s'égarer ou de rencontrer des Chinois par hasard. Les familles des victimes du Covid qui voulaient témoigner, eh bien, le groupe sur Internet a été fermé et les participants rappelés à l'ordre.
Washington exige une enquête claire et poussée.
Oui, hier, les États-Unis ont dit ça. Ils disent qu'ils évalueront la crédibilité du rapport d'enquête en fonction des informations que les services de renseignement américains ont rassemblées et analysées. La menace est implicite, la pression évidente sur l'OMS. Pékin dénonce donc des ingérences politiques qui mettent en danger la recherche de résultats. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Il y a toutes sortes de variants du Covid. Ce qui ne varie pas depuis un an, c'est le virus de la désinformation, les mensonges du régime chinois par action et par omission.
Merci Vincent Hervouette, il est 7h22. Vous restez bien sur Europe 1, l'édito sport Virginie Fulpin et Stéphane Bern dans quelques secondes, à tout de suite.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
7h24 sur Europe 1, bonjour Virginie Fulpin.
Pardon, bonjour Mathieu, bonjour à tous.
On va parler de football dans un instant, mais d'abord un tout petit peu de cette ambiance de la nuit quand même. 2h du matin, les Sables d'Olonne, l'arrivée du quatrième, mais c'est un de ceux qu'on retiendra le plus évidemment, Jean Le Cam. Vous parliez des seniors dans le sport cette semaine, vous voyez ? Eh ben Jean Le Cam arrivé célébré en héros. Johnny Hallyday, 2h du matin, folle ambiance au Sables d'Olonne. C'est Corinne Boulou qui nous a envoyé ces extraits justement de la fête. Je voulais
les retrouvailles avec Kevin Escoffier aussi. C'était assez
évidemment. Évidemment. L'édito sport, Virginie, on va parler de football, je le disais, entre problèmes financiers et désintérêt grandissant du public. Le foot vit une crise majeure. Tout le monde s'accorde à dire que le fonctionnement du football professionnel doit changer pour sortir de l'ornière. Pour vous, Virginie, les dirigeants du foot doivent aussi écouter ce que le public a à dire.
Quand tout fout le camp, il faut revenir aux bases. Et la base, c'est le public. Je crois qu'au moment où on constate une érosion de la passion pour le foot, les dirigeants de clubs et les pontes des instances internationales ont besoin de tendre l'oreille pour savoir ce que les fans ressentent. Le salut passe par là. L'Observatoire du football CIES est une référence dans l'analyse du foot professionnel et il vient de publier une étude sur la perception que les passionnés ont du foot. Messieurs les dirigeants, lisez-la attentivement, je vous en prie, parce qu'elle permet de mieux comprendre le désintérêt grandissant du public. D'abord, il y a trop de matchs. 60% des personnes interrogées le disent. Et pourtant, ce sont des amateurs de foot. On voit trop de matchs et pas assez de football, en gros. Les joueurs sont fatigués, ça se voit sur le terrain pour 72% des sondés. Le niveau de jeu en pâtit. Il y a quand même quelque chose à creuser, là, non ? Alléger le calendrier pour que la qualité prime sur la quantité. C'est une idée pour faire revenir le public, pour faire revivre le football. Je ne parle pas de faire revenir les gens dans les stades pour l'instant, évidemment, mais au moins devant leur télé. Si on a accès au football, plus de 88% des gens qui ont répondu à cette étude trouvent qu'il faut trop d'abonnements pour suivre le foot et que c'est trop cher. Ça, c'est le plus grand défi à venir pour la popularité du football. Si on ne change rien, c'est perdu d'avance.
Et attention, pardonnez-moi, chat dans la gorge. Mais parce que gros débat en vue, on parle beaucoup en ce moment d'une future Super League. Alors je sais que certains s'étouffent en entendant ça justement,
voilà, c'est peut-être ça.
Avec les meilleurs clubs européens, est-ce que Virginie, c'est une solution ?
Là, il y a un vrai problème aussi. Quand un dirigeant rencontre un autre dirigeant, il se raconte des histoires de dirigeants. On parle plus d'argent que de foot. Mais s'ils écoutent le public, là, c'est une autre histoire. Près de 80% des sondés en ont assez de voir toujours les mêmes clubs gagner des trophées. Et ils sont aussi très attachés aux compétitions nationales. Vous croyez franchement que ça va les faire sauter de joie, cette ligue fermée des clubs les plus riches ? Le foot va perdre une partie de son public avec cette Super League qui semble de plus en plus concrète. Il faut faire attention de ne pas se couper de la base. En plus, les personnes interrogées dénoncent massivement les inégalités dans le foot. Là, on va justement les creuser. Et tiens, puisqu'on parle d'inégalités, les sondés sont près de 80% à réclamer plus de femmes à des postes de pouvoir. Je crois que contrairement aux idées reçues, les mentalités des fans évoluent plus vite que la gouvernance au sein des instances dirigeantes. On dit que le foot est le reflet de la société. S'ils veulent rester, on a intérêt à écouter ce que les passionnés ont à dire.
Merci beaucoup Virginie Fulpin, l'édito sport. Et à 7h27, on retrouve Stéphane Bern pour parler d'histoire. Bonjour Stéphane.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Quand on a le cœur qui bat la chamade, c'est une expression aussi désuète, quand on a des sentiments pour quelqu'un, on dit aussi avoir le béguin. C'est l'expression du jour.
Avoir le béguin pour quelqu'un ou avoir un béguin. Est-ce que cette expression a quelque chose à voir avec la biguine, la musique antillaise ?
Oh, j'aurais vraiment adoré vous faire plaisir, surtout juste avant le week-end, mon cher Mathieu Béliard, mais pas du tout. Encore qu'on peut avoir le béguin grâce à une biguine sur laquelle on danse généralement avec très peu d'espace avec sa partenaire, mais non, pas du tout.
Je vois que vous êtes un technicien.
Oui. Partons plutôt pour Liège au XIIe siècle. Lambert le Bègue est un prêtre réformateur et il est à l'origine du couvent des béguines. Les religieuses portent une coiffe faite d'une toile fine qu'on appelait le béguin. Une femme qui était embéguinée portait donc ce couvre-chef qui signifiait qu'elle se donnait aveuglément corps et âme à Dieu. Au XVIe siècle, et selon le lexicographe Gaston Hénault, on dit avoir le béguin à l'envers. Bon, on imagine bien en effet que ces jeunes religieuses qui tout d'un coup s'enflamment avec des pensées impures mettent à l'envers leur coiffe, symbole de leurs vœux prononcés puis oubliés.
Les rebelles.
Étrangement, l'expression va connaître un regain de popularité dans les maisons closes au XIXe siècle où les loueuses de charme avaient parfois le béguin pour certains de leurs généreux mécènes. Et terminons sur une citation de notre ami Frédéric Becbédé. Si avec une femme, tu tiens 10 minutes de silence, c'est que tu as le béguin. Si tu tiens une heure, tu es amoureux. Si tu tiens 10 ans, c'est que tu l'as épousé. C'est cruel et, à mon avis, c'est totalement faux, comme souvent avec Frédéric.
16h, historiquement vôtre avec Mathieu Noël, Stéphane.
Oui, on réunit le gentleman cambrioleur qui aurait inspiré Arsène Lupin, Alexandre Marius Jacob. Vincenzo Perugia, qui a volé la Joconde, et le chat. C'est un surnom, je crois. Leur point commun, c'était des as du cambriolage.
Oh, joli. Stéphane Bern, 16h-18h, historiquement vôtre avec Mathieu Noël. Et on va parler de Lupin en termes d'as du cambriolage. Si je puis me permettre, ce sera dans le journal de 8h. 7h29 sur Europe 1, Laurent Cabrol avec nous pour la BTO.
Allez, ça s'agite beaucoup. Journée d'averses, de giboulées, des averses fortes avec beaucoup de vent sur le nord, la Picardie, la Bourgogne, la Lorraine, l'Alsace. Des averses avec vigilance sur les Vosges, la Franche-Comté, le nord des Alpes qui sont des départements dangereux. Je dirai pourquoi tout à l'heure, mais essentiellement les avalanches et la neige. La pluie est fréquente ce matin dans tout le sud-ouest, mais ça ira mieux. Amélioration avec un temps plus sec près des côtes atlantiques, du Poitou-Charente, et puis du soleil en Méditerranée, youpi youpi, avec en Corse, malheureusement, 120-130 km/h, c'est la vitesse du vent, les températures maximales entre 12 et 15 degrés. Voilà la grande douceur.
Merci beaucoup Laurent Cabrol.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
Bonjour Sophie Echen.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Un nouveau journal sur Europe 1, il est 7h30.
On est en train de remonter l'histoire de cette personne, histoire professionnelle, personnelle, pour essayer de comprendre ces passages-là qui, a priori, ne relèvent pas d'une logique particulière, sauf le lien peut-être avec l'emploi, mais sans qu'on sache véritablement lequel.
Le point sur l'enquête. Après les meurtres d'une DRH et d'une conseillère Pôle emploi hier en Drôme-Ardèche, le suspect, toujours en garde à vue, pourrait avoir fait une troisième victime en début de semaine. Quand vous ne pouvez pas aller au vaccin, c'est le vaccin qui vient à vous. Un bus transformé en centre d'injection sillonne les villages isolés pour permettre aux plus âgés de recevoir une dose. Une bonne nouvelle dans ce journal, malgré la hausse du chômage, l'emploi à domicile résiste. Manger 5 fruits et légumes par jour, vous avez retenu la leçon puisque vous en avez mangé plus pendant les différents confinements. Et puis l'arrivée triomphale de Jean Le Cam cette nuit, il termine 4e de ce Vendée Globe.
Juste après ce journal, La Touche Âme, Bertrand Chameroy, évidemment, comme tous les jours désormais. Le tête-à-tête Europe Matin avec la fille de René Goscinny, Anne Goscinny, qui remet le prix du scénario au Festival d'Angoulême ce soir. Marine Le Pen se prépare pour 2022, c'est l'édito politique de Nicolas Bétou. Juste avant, Nicolas Canteloup, qui conseille à sa manière l'invité politique de la matinale. Aujourd'hui, Vincent Hénouf en charge des virus respiratoires à l'Institut Pasteur. Très bon réveil à toutes et à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
L'enquête avance au lendemain du double meurtre dans la Drôme et l'Ardèche. Double meurtre qui serait en fait lié à un troisième mardi en Alsace. 3 victimes et il aurait pu y en avoir une quatrième. Vous entendiez dans le journal de 7h le témoignage de cet homme miraculé qui a réussi à échapper à l'assaillant. Le suspect, un homme de 45 ans, a été arrêté hier matin. Il est toujours en garde à vue.
Bonjour Guillaume Biais.
Bonjour.
Chef du service police-justice d'Europe 1. Cet homme pourrait donc être à l'origine des 3 crimes?
Oui, d'après nos informations, plusieurs indices matériels confortent la thèse de ce périple criminel. D'abord, le calibre utilisé à chaque fois des balles de 9 mm, ce qui correspond aux 2 armes du suspect, un Glock 17 et un pistolet Taurus. Ensuite, la même voiture a été signalée sur les différentes scènes de crime, cette voiture rouge dans laquelle il a été intercepté hier. Et puis, il y a évidemment ce point commun professionnel, 3 victimes DRH, dont un homme qui a survécu et une responsable Pôle emploi. Alors, bien évidemment, ce faisceau d'indices concordants doit encore être complété par les analyses ADN, téléphoniques et par les auditions du suspect.
Et alors Guillaume, qu'est-ce qui aurait pu pousser cet homme à commettre de tels gestes ?
Bien, l'hypothèse principale, c'est la vengeance, une vieille rancœur, même si le suspect a gardé le silence hier au début de sa garde à vue. Pour comprendre ces deux affaires, les enquêteurs creusent le passé professionnel de cet ingénieur de 45 ans au chômage, tireur sportif, qui aurait donc mûrement prémédité ses actes au point de venir tuer son ancienne DRH 10 ans après son licenciement.
Merci beaucoup Guillaume Biais du service police-justice d'Europe 1.
À la une ce matin, la campagne de vaccination va ralentir. 2,5 millions de personnes devraient recevoir une première dose d'ici à la fin du mois de février, bien loin des 4 millions promises par le gouvernement.
Et on va s'intéresser aux seniors isolés sans moyen de transport. Le département de la Marne a mis une solution à leur disposition pour qu'ils puissent se faire vacciner. Ça s'appelle le Vaxibus, un car spécialement aménagé en centre de vaccination itinérant. On embarque avec Zoé Pallier.
C'est un bus totalement réaménagé dans lequel on a attaché un frigo et rangé les précieuses doses. Objectif, sillonner les villages autour de Reims et vacciner tous ceux qui ne peuvent pas se déplacer.
On sent absolument rien.
À 85 ans, Robert aurait dû renoncer au vaccin si le bus n'était pas passé sous ses fenêtres et le rendez-vous pris par téléphone au lieu d'internet.
On a mis 5 minutes pour venir, donc c'était très bien. Quoi. Sinon, il aurait fallu que je cherche pour se déplacer à Reims ou je ne sais où. Ça aurait mobilisé quelqu'un pour me conduire. Je ne l'aurais pas fait, sûrement pas maintenant. Hein.
Les gens de plus de 75 ans n'ont soit plus de voiture, soit plus de permis, soit ne conduisent plus.
Catherine Vautrin est présidente de la communauté de communes du Grand Reims.
Nous avons 143 communes, dont 111 qui ont moins de 1000 habitants. Donc, pour réussir la vaccination, c'était super important de s'adapter à la réalité des personnes de plus de 75 ans dans le rural et donc d'aller dans les villages pour faciliter leur accès au vaccin.
Là, on va à Péby, un village à 10 km, 158 habitants.
Chaque jour, 40 km parcourus, une trentaine de retraités vaccinés. Le succès est tel que cette tournée rurale pourra s'intensifier dès que la quantité de vaccins disponibles sera suffisante.
Un reportage signé Zoé Pallier. L'emploi à domicile n'a quasiment pas souffert du confinement, c'est ce qui ressort d'un sondage de la Fédération des particuliers employeurs publié aujourd'hui. 95% d'emplois maintenus, alors même que le chômage a fortement augmenté. Olivier Samin.
Lors du premier confinement, 27% seulement des particuliers employeurs avaient maintenu l'activité de leurs salariés à domicile. Allait-on observer un plongeon du même ordre au deuxième confinement ? La réponse est non. En novembre, 95% des particuliers qui emploient une personne à domicile ont continué à la faire travailler. Et là, ce sont toutes les tâches qui ont été maintenues, garde d'enfants, ménage ou soutien scolaire. Alors qu'au premier confinement, seuls les assistants de vie qui s'occupent des personnes âgées ou handicapées avaient conservé leur volume d'heures. Ce que révèle ce sondage, c'est aussi le fait que près des trois quarts des particuliers employeurs qui ont renoué avec le télétravail lors du deuxième confinement n'ont pas voulu modifier pour autant les conditions d'emploi de leurs salariés. 12% seulement ont réduit le nombre d'heures et 5% ont changé la nature du travail à accomplir.
Olivier Samin.
Et nous en parlions avec Nicolas Barré il y a un quart d'heure seulement. Ça y est, l'INSEE a publié les chiffres de la croissance pour l'an passé. 8,3% de récession. C'est Nicolas Barré parlait d'un chiffre autour de 9. On est à 8,3. L'INSEE qui nous apprend aussi que la consommation des ménages rebondit vivement au mois de décembre. On en reparle tout à l'heure dans le journal de 8h. Le confinement, les confinements à répétition qui ont tout de même eu quelques effets positifs. En voici un. Vous avez consommé plus de fruits et légumes. Comme on peut. Hein.
Bah oui, mais quand même, plus 5% sur un an, on dirait pas comme ça, mais c'est une hausse historique, Virginie Salmen.
Oui, on le voit très nettement sur les courbes, les ventes de fruits et légumes ont grimpé dès le mois de mars avec un vrai bond en avril. Pour Laurent Grandin qui préside Interfel, la filière des fruits et légumes, c'est une progression inédite.
En une année, on a progressé autant que ces 10 dernières années. Les gens se sont retrouvés au premier confinement pendant près de 2 mois à la maison avec les enfants. Ils ont beaucoup plus cuisiné qu'à l'habitude. Ils ont, semble-t-il, retrouvé le chemin du frais et du plaisir de cuisiner. On pense que c'est une habitude qui devrait s'ancrer. C'est un peu comme le télétravail, si vous voulez, qui va certainement retrouver un niveau plus modeste, mais qui s'ancrera dans les habitudes de vie.
Ça a effectivement continué dans une moindre mesure lors du deuxième confinement en novembre, mais malgré cette forte hausse, les Français ne mangent toujours pas les 400 à 500 grammes de fruits et légumes par jour recommandés dans le plan national de nutrition. Nous sommes autour de 350 grammes par jour. Et puis l'autre chiffre marquant, c'est celui des fruits et légumes bio, moins 1% de vente, un tassement pour la première fois depuis 20 ans.
Les explications de Virginie Salmen.
Et puis l'arrivée du loup de mer ce matin aux alentours de 2h, Jean Le Cam a bouclé son Vendée Globe.
Et il termine
Vendée Globe, pardon.
Il termine en 4e position grâce à ses compensations en temps pour avoir secouru Kevin Escoffier. Et puis un mot de handball pour finir avec la suite du mondial en Égypte. La France va tenter de battre la Suède ce soir pour gagner sa place en finale.
Merci Sophie Echen. C'était le journal de 7h30 sur Europe 1, 7h37.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Le festival de la bande dessinée d'Angoulême, palmarès ce soir et dans le tête-à-tête Europe Matin. Tout à l'heure, je reçois Anne Goscinny, la fille de René Goscinny, qui veille sur la création de son père, Astérix, Lucky Luke, It's No Good. On va en parler dans le tête-à-tête. Mais tout de suite, votre nouveau rendez-vous de la matinale, La Toucham, Bertrand Chameroy. Bonjour Bertrand.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Ce matin, leçon d'éléments de langage avec le directeur marketing du gouvernement.
A tout de suite sur Europe 1.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
7h40 sur Europe 1, La Toucham, Bertrand Chameroy avec nous en studio. Bonjour Bertrand.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Eh bien, je ne sais pas, oui, tout à fait. Je ne sais pas comment vous vous portez, mais je suis de très bonne humeur.
Mais vous qui avez bugué un peu.
Oui, tout à fait. Chacun son tour. Hier, j'ai regardé le point presse d'Olivier Véran sur l'épidémie. Et bonne nouvelle, il était temps. La situation n'est pas si catastrophique que ça. Le ministre de la Santé s'est montré rassurant.
Nous ne sommes pas, à proprement parler, dans une vague épidémique. Nous sommes sur un plateau montant.
Un plateau montant, une nouvelle expression que j'aime beaucoup, c'est beau comme du Magritte, ceci n'est pas une vague. Alors qui se cache derrière ces éléments de langage? Le directeur marketing du gouvernement est avec vous ce matin, Mathieu.
Bonjour Étienne Fifre.
Bonjour Mathieu Béliard.
Alors, hier, les Français ont donc découvert le concept de plateau montant. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie?
Eh bien, concrètement, ça signifie que, comme l'a dit le ministre de la Santé, nous ne sommes pas face à une vague.
Mais ça ne veut rien dire, plateau montant.
Oh, ne jouez pas les oiseaux de mauvais augure, de grâce. Le plateau montant, c'est un peu comme la croissance négative. Ça rend les choses plus douces. Enfin, Monsieur Béliard, on vous annonce des bonnes nouvelles et vous venez chercher la petite bête. Halte au catastrophisme. Les chiffres ne sont pas si terribles. Regardez la courbe que je vous ai apportée, elle est plutôt encourageante. Il n'y a pas de vague.
Excusez-moi, mais vous tenez votre feuille à l'envers. Là.
Je trouve un peu catégorique. Je dirais plutôt que je ne la tiens pas dans le bon sens.
On a le sentiment que vous avez du mal à dire les choses clairement aux Français.
C'est faux.
Très bien. Alors, dans ce cas-là, concernant l'échec du couvre-feu, est-ce que vous pouvez.
Non, alors, pardon de vous couper. C'est dire que c'est un échec, non, je ne suis pas d'accord. Ça n'a pas marché. Nuance.
Bon, alors, répondez franchement. Va-t-il y avoir reconfinement? Et si oui, les écoles seront-elles ouvertes?
Je vous le dis franchement, vous avez vu les images hier. Olivier Véran est allé chez le coiffeur. Concernant les établissements scolaires, ils resteront ouverts, mais nous pourrions prolonger les vacances.
Donc, écoles fermées?
Bah non, elles seront pas fermées. Les enfants resteront simplement plus longtemps en vacances.
En fait, vous avez peur de prononcer les mots qui fâchent?
Mais pas du tout. Confinement, confinement, confinement. Voilà, je l'ai dit. Tu vas faire quoi?
Je vous sens un peu tendu.
Mais non. C'est ma sérénité qui s'estompe. C'est tout. Voilà. Alors, pour revenir au sujet, je vous signale d'ailleurs que d'après un sondage, 62% des Français se déclarent favorables au confinement.
Oui, mais rejettent majoritairement les mesures qu'il implique, selon le même sondage.
Et c'est une bonne nouvelle. Ils sont pour, mais ils rejettent les mesures. Ça veut dire qu'ils commencent à parler comme nous, on progresse.
Dernière question, monsieur Fifre. Ça fait des jours que vous tournez autour du pot. Qui vous conseille?
Nikos Aliagas et Denis Brognard. On les a reçus à l'Elysée avant-hier et ils nous ont expliqué que pour garder les Français en haleine, il faut maîtriser l'art du suspense. Mais je peux vous l'annoncer ce matin, après des semaines d'attente, de doutes, de questionnements, le scénario que l'exécutif a choisi est... Vous le saurez après le week-end.
Merci Bertrand Chameroy. La touchable, ça marche comme ça, ce teasing des annonces. On verra pour le coup. Merci Bertrand Chameroy. On vous retrouve à 10h tout à l'heure avec Philippe Vandel dans Culture Média. Il est 7h42.
Europe Matin, le 7-9.
Le festival de la bande dessinée d'Angoulême en temps de Covid. Les événements sont reportés au mois de juin, mais le palmarès, c'est ce soir. Et notamment le palmarès du prix Goscinny. Dans un monde de la BD où les dessinateurs sont reconnus, soulignons ce matin le travail des scénaristes. On va parler de BD, d'Astérix et Lucky Luke, de René Goscinny, avec mon invité ce matin. C'est elle qui veille sur ce patrimoine, sa fille, Anne Goscinny.
Le tête-à-tête. Mathieu Béliard.
Bonjour Anne Goscinny.
Bonjour Mathieu.
Dans le cadre du Festival d'Angoulême, le prix René Goscinny du scénario, soutenir, souligner, récompenser le travail des scénaristes. Et finalement, le meilleur soutien, c'est peut-être de parler de leur travail. Alors simplement, pour démarrer, comment est-ce qu'il travaillait, votre père? Racontez-nous. Il écrivait de son côté, puis il envoyait à Uderzo, Sempé, Maurice. Ils travaillaient ensemble?
Absolument. Il travaillait de son côté. C'est une époque où il n'y a évidemment pas de mail. Donc, il avait sa machine à écrire. Donc, moi, je ne peux pas dire que j'ai vu mon père travailler, mais je l'ai entendu travailler, puisque la machine à écrire de l'époque faisait du bruit. Il mettait 3 feuilles dans sa machine à écrire, une page blanche, un carbone et une page pour faire le double. Et il envoyait à ses différents dessinateurs le double de ce qu'il écrivait. Et il l'envoyait par la poste.
L'idée de ce prix René Goscinny n'est pas anodine. Hein. Dans le monde de la BD, il faut le savoir, c'est normal de s'arrêter sur le dessin, mais on souligne peut-être pas assez le travail des scénaristes.
Absolument. Et c'est mon père le premier qui a imposé que les scénaristes aient un contrat et surtout que leur nom figure sur les albums. Puisque les premiers albums de Lucky Luke que mon père signe, il n'y a pas son nom sur la couverture.
Anne Goscinny, c'est un prix aussi, je veux dire, avec de l'argent et c'est pas anodin. On sait que c'est pas toujours évident financièrement pour beaucoup d'auteurs.
Je remets au lauréat une sculpture de Robert Combas qui sont les lettres du mot scénario empilées les unes sur les autres. C'est une très jolie sculpture. Mais mieux que ça, je donne les moyens financiers à la ville d'Angoulême d'organiser pour le lauréat du prix une exposition qui aura lieu l'année suivante.
Des artistes
ont menacé de boycotter le festival. Ils demandent une meilleure reconnaissance de leur statut, une meilleure rémunération. Le président de la République s'était déplacé hein, l'an dernier, il les avait soutenus. Le grand public ne sait pas forcément que la BD va bien, mais que les auteurs, dessinateurs et scénaristes, pour le coup, ne sont pas tous très bien lotis.
En fait, la BD va bien parce que les grands titres de bande dessinée, je pense à Lucky Luke par exemple, donc il y a une visibilité qui est importante. Et puis par ailleurs, il y a énormément de bandes dessinées qui sortent, non pas dans une indifférence totale, parce qu'il ne faut pas non plus... dramatisé, mais dans un silence relatif, je découvre vraiment des merveilles, vraiment des merveilles.
Il y a un nouvel Astérix aussi qui paraîtra le 21 octobre et on parlait des grands succès. Chaque année où paraît un album des aventures d'Astérix, c'est pas compliqué, c'est le livre le plus vendu.
Oui, c'est vrai. Et pour l'orpheline que j'ai été à 9 ans, il y a un truc un peu magique, un peu mystique. 43 ans plus tard, 43 ans après la mort de mon père, et ça fera 44 ans en novembre prochain, le nom de mon père figure toujours sur les albums de bande dessinée d'Astérix. C'est-à-dire qu'en haut de l'album, vous avez René Goscinny et Albert Uderzo présentent une nouvelle aventure du personnage d'Astérix.
Ça fait de cet Astérix du mois d'octobre prochain le premier album qui ne sera lu ou relu par aucun de ses deux papas.
Absolument. Albert Uderzo nous a quittés le 24 mars. Là, maintenant, il faut que les nouveaux auteurs s'affranchissent complètement du regard de celui des deux qui restaient, c'est-à-dire Albert Uderzo.
Oui, vous les relisez aussi, hein, vous les validez, ces albums.
Non seulement on relit, mais d'abord on nous donne le contenu, le résumé, avant même que la première case soit élaborée. C'est une question de gestion de ce droit moral qui me tient beaucoup à cœur, puisque aujourd'hui, mon père n'ayant plus que mes yeux sous ses paupières closes, donc son regard, maintenant, c'est le mien.
Vous pouvez nous dire un mot ce matin de ce prochain album d'Astérix ?
Écoutez, je ne me risquerai pas à ça parce que j'en ai pas le droit. Je peux vous dire qu'il ne vous décevra pas.
Ah, c'est un peu court, presque.
Un peu court, mais je reviendrai en parler volontiers quand vous l'aurez lu vous-même.
Avec grand plaisir. Astérix et Obélix au cinéma aussi. Alors, le tournage va bientôt commencer.
Hein, oui, enfin, avec un an de retard.
Et oui, l'Empire du Milieu, il faut dire que c'était censé se tourner en Chine. Ça se tournera finalement ailleurs, en France et au Maghreb, je crois.
Absolument.
Guillaume Canet et Gilles Lellouche dans les rôles d'Astérix et Obélix. Alors là aussi, hein, ça passe par vos mains, vos yeux, Anne Goscinny.
Oui.
Vous avez
Bien
lu
sûr.
Le script, vous l'avez validé.
Oh là là, je l'ai lu, relu, validé, amendé, demandé des modifications, obtenu les modifications. J'ai à cette occasion rencontré Guillaume Canet, qui est extrêmement sympathique et réceptif, ce qui n'est pas le cas de tous, parce que c'est difficile aussi pour les réalisateurs et scénaristes de s'emparer d'une œuvre dont les codes sont à ce point établis. Le meilleur exemple de tous, c'est évidemment Mission Cléopâtre d'Alain Chabat, qui a réussi à transgresser tout en étant extrêmement respectueux de l'œuvre.
Et sur l'histoire ?
Je vais vous dire un truc bizarre, et je ne sais pas si Guillaume Canet nous écoute, mais mon père aurait presque pu l'écrire, cette histoire. Tellement elle est bonne.
Est-ce qu'il est vrai que le film commence sur une question qui fait débat chez nous, les Gaulois, hein, à savoir l'écologie ?
Alors, dans sa dernière version, ce n'est pas ce qui me vient à l'esprit. Mais c'est vrai que, alors oui, je vous dis qu'effectivement, Astérix trouve que peut-être il vaudrait mieux consommer des châtaignes plutôt que des sangliers.
Ça, c'est votre génération aujourd'hui, le monde de Lucrèce.
Oui,
Lucrèce et ses tourments d'ado que vous signez, le monde des adolescents. Il y a 5 albums déjà. Le 6e, c'est pour quand, Anne Goscinny ?
Le 6e sort début mai. Et on vient de re-signer avec Gallimard Jeunesse pour 3 nouveaux albums qui seront donc les 7, 8, 9. Et la série rencontre, c'est vrai, un grand succès. C'est un petit personnage que j'ai grand plaisir à animer et qui est magistralement illustré par Catel.
Et justement, Catel, votre binôme à vous, peut-être qu'on peut dire un mot de la BD au féminin, parce que là aussi, il y a du travail. C'est un univers qui est encore assez masculin aussi.
Alors, la BD au féminin, là encore, je vais placer mon père, mais après tout, vous m'avez invité pour parler de lui. Il est le premier à avoir donné une chance à une femme en invitant Claire Bretécher à travailler pour le journal Pilote. Claire Bretécher dira une phrase que j'aime beaucoup, et que je vous cite, il disait « Il te mettait vraiment sur un plan d'égalité, ce qui résonne aujourd'hui. Tu te sentais complètement indigne de ce plan d'égalité, mais c'était agréable. » Mon père, finalement, les femmes que mon père a animées en bande dessinée, c'est Cléopâtre et Calamity Jane. Alors je pense que là, niveau féminisme, on est au taquet quand même.
On vit une époque bizarre, celle de la pandémie. Et en même temps, les personnages de votre papa sont extrêmement français. Alors évidemment, les Gaulois, Astérix, Obélix, mais je pense même à Lucky Luke. Aujourd'hui, ces personnages-là, là, qu'on connaît tous, ils porteraient le masque, ils respecteraient les gestes barrières, ils seraient cloîtrés chez eux.
J'espère bien que non, ils ne porteraient pas le masque, parce qu'il faut bien qu'on ait un espace, notre imagination, un espace où on ne porte pas le masque. Et puis, je suis optimiste et je me suis dit que si dans 10 ans, des gamins lisent le volume 6, ils se diront, mais pourquoi elle nous parle de masque et de gel et de gestes barrières? Tout ça, ça n'existe plus.
Avec vous, on était un peu à l'époque où ce masque n'existait pas et on se projette aussi dans celle où il n'existera plus. Merci beaucoup Anne Goscinny.
Merci Mathieu.
J'ai pas réussi à vous soutirer les scénarios des prochains Astérix BD ou films,
mais
j'espère bien vous retrouver dans le studio d'Europe 1.
Mais je vous promets, je reviendrai.
Merci mille fois.
Europe 1, Mathieu Béliard.
2022, pourquoi Marine Le Pen y croit? C'est l'édito politique de Nicolas Bétou dans une minute.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
7h53 sur Europe 1, l'édito politique de Nicolas Bétou. Bonjour Nicolas.
Bonjour Mathieu.
Le Rassemblement National présentera ce matin son contre-projet de loi sur le séparatisme et l'islamisme.
Oui, c'est un texte important pour Marine Le Pen, à la fois parce que touchant au cœur de l'offre de son parti, mais aussi parce qu'il est typique de ce qu'elle met en place pour la conquête de l'Élysée dans 15 mois. Pour tenter de crédibiliser sa démarche et donner corps à son programme, elle va en effet multiplier ce genre de contre-projet de loi en visant les grands thèmes de la campagne. Bon, ça, c'est pour la tactique en vue de 2022.
Et pour la stratégie ?
Eh bien, elle est assez largement arrêtée. Pour elle, la prochaine présidentielle sera l'occasion d'un affrontement total entre mondialistes et nationaux. Traduisez entre Emmanuel Macron et ce qu'il représente, vous y mettez aussi un peu de candidats de droite et de gauche, bien sûr, et puis Marine Le Pen et ce qu'elle défend. La patronne du RN pense que tout va s'articuler autour de ce débat fondamental entre souverainisme et ultralibéralisme. Et oui, voilà le fameux ultralibéralisme. Quoi qu'il en soit, tout, selon elle, sera décrypté au travers de ce logiciel. Et dans ce débat, eh bien, elle assure que la crise sanitaire sera un formidable allié.
Pourquoi ? À cause de la gestion du gouvernement, les masques, les tests, la vaccination, etc.
Bien sûr. Mais surtout parce que, selon elle, au sortir de cette épidémie, on ne pourra pas échapper à quelques questions fondamentales sur la souveraineté, la fragilité du modèle économique, la course à la taille, au libre-échange, la reconquête de nos frontières. Tous les sujets passeront par ce filtre. L'écologie, il faudra penser local. La sécurité, il faudra répondre immigration et donc lutte contre les mouvements de population. Et lorsqu'elle voit une grande partie de la classe politique reparler par exemple de souveraineté industrielle, eh bien elle comprend que tout le monde vient sur son terrain, ce qui, dit-elle, renforce son positionnement.
Et alors justement, un sondage Harris Interactive la met à 48% au second tour contre 52% pour Emmanuel Macron.
Oui, 15 points au-dessus de son score de 2017. Autant dire qu'elle y croit cette fois. Alors je ne dis pas que tout est joué, hein, ce serait stupide, on est encore loin de l'échéance et on sait ce que réserve comme surprise une campagne présidentielle. Mais tout est en train de se mettre en place de son côté pour franchir la dernière marche. Elle a encore bien des points faibles, elle a un parti fragile financièrement, mais ce qui est sûr, c'est que dans sa tête, cette fameuse dernière marche est désormais à sa portée. Et le mental, dans une compétition comme ça, c'est comme en sport, Mathieu, hein ? Ça change tout.
Voilà, l'édito sport de... J'ai eu peur de la devinette. Oui, ça change tout, le mental, évidemment, et on aura l'occasion de surveiller le mental des différents protagonistes de ces affaires-là d'ici là. Merci beaucoup Nicolas Bétou, votre édito tous les matins. Nicolas Bétou, directeur du journal L'Opinion à 7h55. Nous retrouvons Nicolas Canteloup qui conseille à sa manière l'invité de Sonia Mabrouk. Sonia qui reçoit à 8h15 Vincent Enouf, directeur adjoint du Centre National de Référence des Virus Respiratoires de l'Institut Pasteur. Et Alain Juppé souhaitait lui dire un petit mot.
Oui, bonjour Monsieur Béliard, bonjour Monsieur Bétou, bravo pour votre édito sport.
Merci.
Je me force un peu. Bien se tenir. Voilà. Bientôt peut-être un édito météo. Bonjour Monsieur Cabrol. Bonjour. Bonjour à Vincent Enouf qui doit d'ailleurs nous écouter et à qui j'ai envie de dire, écoutez cher Vincent, ce n'est pas grave, ça arrive à tout le monde de se planter, à l'Institut Pasteur comme aux autres d'ailleurs. Hein. Vous avez fait même de belles choses. Ne ressassez pas trop, cher Vincent, pour l'abandon de votre vaccin. Là, je vous parle d'humain humain, je te parle d'humain humain. Allez, je te tutoie. J'allais dire de branlologue à novice, je te parle. Une branlée, voilà, ça arrive. Tu sais, Vincent, des vautrades, j'en ai connu une bonne vingtaine. Hein, toutes, d'ailleurs, plus humiliantes les unes que les autres. Mais à chaque fois, j'ai su me relever. digne, face à l'adversité, j'ai marché droit, ferme, conquérant, prêt à vivre l'échec suivant. L'Institut Pasteur peut suivre le même chemin et vivement la prochaine pandémie que l'on voit ce que tu as dans le ventre. Allez, courage mon Vincent.
C'est signé Nicolas Canteloup qui conseille à sa manière l'invité tous les matins, juste avant 8h. Il est 7h57, très bon réveil à toutes et à tous. Il est 7h58 et nous sommes avec Laurent Cabrol pour la météo.
Oh là 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 là, aujourd'hui c'est vendredi, il y aura de la pluie, surtout les amis, sortez vos parapluies. Et parce que franchement, c'est un temps très 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 agité et très pluvieux pour cette journée de vendredi, avec non pas des averses, mais même des giboulées, avec de gros vents sur le nord, la Picardie, la Champagne-Ardenne, la Lorraine, l'Alsace et la Bourgogne. Et puis si vous habitez les Vosges, la Franche-Comté ou le nord des Alpes, attention, attention, il y a des vigilances, il y a des avalanches, il y a de la neige et il y a du gros temps de manière général. Dans le sud-ouest, ça va s'arranger au fil des heures, hein, parce que ce matin, c'est pas terrible. Sur les côtes atlantiques, la Basse-Normandie, le Poitou-Charentes, la vallée du Rhône et l'Auvergne, amélioration, nous allons vers du temps sec, et puis du soleil, il y en aura sur le bassin méditerranéen, sur la basse vallée du Rhône. En Corse, le vent commence à souffler. J'y commence à souffler 120-130 parce que d'abord c'est violent, et ensuite demain et après-demain, nous allons vivre des journées extrêmement agitées avec une tempête, une petite tempête, Justine, qui va nous apporter des vents de 100-120 km/h sur les côtes atlantiques, 80 à 100 km/h à l'intérieur des terres et en Corse comme aujourd'hui. Alors les températures sont douces et resteront douces. 12 degrés à Bourges et à Paris comme à Colmar, 13 à Caen, 14 à Rennes cet après-midi, hein, 15 à Toulouse, à Bordeaux et Lyon et 17 à Marseille. C'est une grande, grande, grande douceur.
Merci beaucoup Laurent Cabrol.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.